Depuis quelques semaines, on parle du disciple et ce que la Bible entend par disciple, les disciples que nous sommes bien évidemment, disciples de Christ. Et je me suis arrêté sur ce thème il y a déjà quelques semaines maintenant, et pour voir un aspect, une caractéristique du disciple. Et cette caractéristique, c'est celle de la liberté. Donc le titre, c'est « La liberté du disciple ». Et ça sera une deuxième partie ce matin concernant la liberté du disciple. C'est ce qui, je pense, fait une des grandes particularités des disciples que nous sommes, et qui ont reçu la liberté en Christ. Le mot « liberté » déjà en soi, c'est un mot qui plaît à tout le monde. Hein. Quand vous prononcez le mot « liberté », vous savez que vous n'allez pas vous faire des ennemis. Au contraire, tout le monde veut la liberté, tout le monde cherche la liberté. C'est un mot magique dans notre société. La valeur la plus recherchée, on peut dire, dans la société occidentale et particulièrement en France, parce que c'est même le premier mot de la devise française que vous connaissez bien. Donc c'est une valeur qui est défendue, qui est recherchée, qui est revendiquée et à laquelle on est tous très, très... Mais en ce qui concerne l'Évangile, la liberté, c'est aussi la grande promesse de l'Évangile. C'est la grande richesse qui est offerte à chacun dans l'Évangile. C'est bien sûr le fruit de l'œuvre de Christ pour répondre à la plus terrible conséquence que le mal a pu avoir dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire l'esclavage. La liberté, c'est la réponse de Dieu, bien sûr, à l'esclavage. Cette privation de la liberté, comme Jésus le dira, quiconque fait le mal ou se livre au péché est esclave du péché ou du mal. Et il dira dans le même paragraphe, dans Jean 8, « Si donc le Fils vous affranchit, ou vous libère, ou vous rend libre, vous serez réellement libre. » Ça, c'est la grande nouvelle de l'Évangile, c'est la réponse que Dieu fait à ces hommes et ces femmes que nous sommes, qui sont dans l'esclavage du mal, qui sont dans la dépendance du mal et qui ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Donc c'est la promesse de la libération, de l'affranchissement que l'Évangile nous apporte et que les uns et les autres, nous avons vécu, bien évidemment. Je crois qu'on a vécu cette libération. C'est ce qui fait la marque d'un disciple de Christ. Un autre mot dans la Bible pour parler du salut, les deux mots certainement les plus souvent utilisés dans la Bible pour parler du salut, c'est le mot « salut » d'abord, et ensuite c'est le mot « rédemption ». Et ce mot, bien sûr, c'est un mot qui était utilisé dans l'Antiquité, dans le contexte de l'esclavage. C'est un mot qui était utilisé lorsque on voulait libérer des esclaves. Il y avait bien sûr un prix à payer, il fallait racheter ces esclaves pour qu'ils puissent être libérés, et c'est le sens du mot rédemption, et c'est pas par hasard bien sûr que ce mot est utilisé très souvent dans la Bible pour parler de cette libération spirituelle, c'est cette libération de cet esclavage et le prix qui a dû être payé bien sûr pour que nous soyons libérés. Je voudrais en profiter, en parlant de la liberté, de donner un petit conseil ce matin par rapport à ce mot-là et l'intérêt de ce mot-là, cette notion de la liberté, lorsque nous témoignons de notre foi. Nous arrive les uns et les autres de partager notre foi avec des gens, bien sûr, qui ne connaissent pas l'Évangile et qui parfois sont en recherche spirituelle. Et le thème de la liberté, c'est un thème qui peut favoriser notre témoignage, qui peut nous aider à témoigner. Si vous commencez à parler de votre foi à quelqu'un aujourd'hui dans le monde occidental, postmoderne, et à parler par exemple de la loi de Dieu, je ne vous garantis pas que votre interlocuteur va vraiment s'intéresser à ce que vous allez lui dire. Si vous lui parlez de la loi de Dieu, des commandements de Dieu, tu ne feras pas ça ou tu feras cela, les gens, d'une certaine manière, dans notre culture à nous, prennent beaucoup de recul et de distance et ne sont pas prêts à écouter cela. Il y a peut-être 50 ans ou 60 ans, lorsque On était dans une société où ce qui était mis en avant pour l'individu, c'était d'être des gens bien. Ça, c'est ce qui était recherché dans un monde assez religieux. On voulait être des gens bien, des gens qui avaient une bonne image autour d'eux. On voulait chercher le bien. Et bien évidemment, lorsqu'on est dans cette démarche-là, on va s'intéresser à la loi, à ce qui est bien et à ce qui est mal. Donc dans ce contexte-là, et si vous rencontrez des gens qui sont dans cet esprit-là, avec cette mentalité-là, vous pouvez leur parler de la loi. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, si vous parlez de la loi à des gens qui n'ont que faire des commandements, qui veulent surtout pas de contraintes, c'est pas la meilleure porte d'entrée pour leur parler de l'Évangile. Là, vous risquez de voir une porte qui se claque et les gens qui vont pas vraiment s'intéresser à ce que vous voulez leur dire. En revanche, si vous leur parlez de la liberté, ça va les intéresser. Ça, c'est un mot magique. Vous dites, tiens, est-ce que tu es intéressé à la liberté? Ah, bien sûr, elle va vous dire, je suis intéressé à la liberté. Moi, je suis libre. Tout le monde dit qu'il est libre, en fait. Les gens vous disent, voilà, on est attachés à la liberté, on cherche la liberté, et on pense qu'on est libre. Et quand vous trouvez en face de gens qui sont dans cette position-là, dans cette pensée, dans cette mentalité, alors vous pouvez leur dire, ben, est-ce que tu es vraiment libre? Est-ce que tu es si libre que cela? Il ne faut pas chercher très loin, hein, pour voir que les gens, ils ne sont pas vraiment libres, en fait. Ils sont dépendants de beaucoup de choses, addicts à beaucoup de choses. Ils sont enfermés dans l'amertume pour un grand nombre, dans la colère, dans l'irritation. Ils sont enchaînés de mille manières, donc c'est pas très difficile de leur montrer que, oui, la liberté c'est quelque chose de beau et de grand, c'est quelque chose que tout le monde doit rechercher, beaucoup de gens pensent l'avoir, mais en réalité, personne ne l'a en fait, cette vraie liberté. Et là, vous pouvez trouver chez vos interlocuteurs, quand vous partagez votre foi ou témoignez à ces gens, un intérêt pour le message de l'Évangile, parce que là, vous pouvez leur dire, tiens, moi je vais te parler de quelqu'un qui peut vraiment te rendre libre, en fait. Parce que tu vois, tu aimes la liberté, tu penses être libre, tu n'es pas si libre que cela. Eh bien, je vais te parler de quelqu'un qui peut vraiment rendre libre. Et là, vous pouvez parler de l'Évangile, vous pouvez parler de votre témoignage, vous aussi, de quelle manière vous avez été libéré. C'est une formidable porte d'entrée que de parler de la liberté pour apporter l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, c'est un petit tuyau que je vous donne. Vous pouvez essayer cela, et je sais qu'il y en a qui l'ont déjà essayé. C'est une méthode que j'utilise assez souvent dans la prédication de l'Évangile, quand on apporte l'Évangile à des nouvelles personnes. C'est un moyen, il y a beaucoup de textes qui se rapportent à l'esclavage, à la liberté, etc. Et c'est un moyen d'entrée pour être en contact avec les gens. Parce que dès que vous commencez à aborder un sujet qui est un peu trop sensible avec les gens, s'ils sont pas très intéressés par l'Évangile, vous vous rendez compte qu'ils tirent le rideau, ils veulent plus rien savoir, si c'est ça, la Bible, tout cela, je veux rien savoir. Il faut trouver des moyens, bien sûr, qui correspondent, ou des thèmes qui correspondent à ce qui intéresse vraiment les gens au départ. Après, on peut leur parler de la loi de Dieu. Après, bien évidemment, on peut leur parler de d'autres thèmes, mais souvent le premier thème est vraiment le plus important, en fait. C'est ce qui va ouvrir une porte, ou la fermer, justement. Donc ça, ce thème de la liberté, vous pouvez l'utiliser dans notre monde occidental, dans la culture dans laquelle nous sommes. C'est un thème qui donne de bons résultats. Un disciple de Christ, c'est donc par définition un disciple libre. Un disciple esclave, c'est certainement un contresens biblique. Un disciple esclave. Et pourtant, les Galates, auxquels Paul s'adressait dans cette lettre aux Galates, étaient des chrétiens, certainement des chrétiens, des disciples, mais esclaves. Paul aura ce texte, on va le lire dans Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ou de l'esclavage. C'est sûr que si nous faisons partie de ces chrétiens esclaves ou disciples esclaves, on ne va pas donner une bonne image de l'Évangile. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui sont opposés à l'Évangile, au christianisme, parce que malheureusement, ils n'ont rencontré que des chrétiens esclaves ou des disciples esclaves. Si vous aviez rencontré des Galates, Vous avez rencontré des gens qui disent chrétiens, mais qui sont encore dans l'esclavage. Et Paul a écrit cette lettre aux Galates pour lutter contre cela, justement. Parce qu'il avait vu beaucoup de ces chrétiens se retourner ou revenir vers la loi de Dieu. Et imposer à des gens qui n'avaient jamais suivi la loi de Dieu, la loi de Moïse, parce qu'ils étaient, ils n'étaient pas des juifs, ils étaient des païens, eh bien, à leur imposer la loi de Moïse, en fait. Et voilà ce que ça donne. Dans les religions, l'équation est la suivante. La loi plus l'obéissance, ça veut dire l'esclavage, égale le salut. Dans toutes les religions, c'est ce qu'on vous demande. On vous donne une loi, on vous dit tu obéis, et si tu obéis, tu peux être sauvé, accepté par Dieu. Et là, ça nous laisse dans l'esclavage. Pour les Galates, il y avait une petite nuance avec ce qui était dit et ce qui est dit dans les religions, c'était Jésus, ça c'est le plus, Jésus bien sûr, il croyait que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il était mort pour leurs péchés, etc. Mais plus la loi, plus l'obéissance, c'est-à-dire le retour à l'esclavage, égale le salut. Ça c'était l'équation pour définir la théologie du salut chez les Galates. Oui, Jésus, la mort de Christ, mais il fallait en plus la loi et particulièrement la circoncision. L'obéissance à la loi. Et dans ce cas-là, tu pouvais avoir espéré être sauvé un jour, avoir le salut. Dans l'Évangile, vous connaissez l'équation de l'Évangile, ce qui concerne le salut, c'est Jésus plus le salut, c'est-à-dire la grâce, égale l'obéissance à la loi. C'est après avoir reçu le salut, après avoir été accepté, que nous sommes libres d'obéir à la loi, en fait. Ça, c'est l'équation qu'il ne faut jamais oublier. On peut vite passer, peut-être pas à l'équation des religions, en ce qui concerne le salut, mais à celle des Galates. Avec une forme différente, bien évidemment, ce ne sera pas la circoncision qu'on va préconiser, mais d'autres lois, d'autres règles qu'on va juger indispensables et qui nous ramènent dans l'esclavage, en fait, pour pouvoir être sauvés. On va s'arrêter sur deux points ce matin, pas trois parce qu'on est heureux, on est en vacances, donc il y aura un de moins, ce sera un peu plus court. Le premier, c'est la relation avec Dieu, je voudrais que l'on voit ensemble que la relation avec Dieu, l'Évangile c'est d'abord ça, entrer en relation avec Dieu nécessite la liberté. Et pour vivre cette relation avec Dieu, il faut être libre en fait. Si on n'est pas libre, on ne peut pas vivre cette relation avec Dieu. Et le deuxième point sera la liberté doit être protégée à tout prix. Et c'est ce que l'on voit dans cet épître aux Galates, Paul fait tout pour protéger cette liberté. Pour le premier point, pour montrer combien la relation avec Dieu nécessite la liberté, je me contenterai de vous donner une illustration. Je pense que l'illustration, elle suffira à elle-même pour vous montrer ce que ça veut dire. Prenons l'exemple des jeunes qui veulent entrer dans une grande école, par exemple, et d'une manière générale, pour entrer dans une grande école, il faut passer un concours d'entrée. Il y en a peut-être qui font ça en ce moment, ou qui ont fait ça dernièrement, et vous avez réussi, et vous allez pouvoir entrer dans cette école. Donc il faut passer un examen d'entrée. C'est la porte d'entrée dans cette école. Une fois que vous avez cet examen, vous avez cette porte d'entrée, vous pouvez faire les études dans cette école. Vous avez des enseignants pour cela, qui vous donnent des connaissances dans le domaine que vous avez choisi. Et vous faites cela pendant plusieurs années, 2, 3, 4, 5, des fois plus. Et à la fin de ce cycle d'études, eh bien, il y a un examen final. Il y a un mémoire, il y a une thèse, il y a quelque chose à faire pour valider ces années d'études. les étudiants ont travaillé, ils ont travaillé leur sujet, et s'ils ne passent pas cet examen, sans ce diplôme, ils ne pourront pas travailler à certains postes. Il faut qu'ils réussissent cet examen. Et ceux qui ont réussi cet examen, ils ont réussi grâce à leur travail, à leurs efforts, à leurs performances, grâce à leur mérite. On peut dire que quand un jeune a réussi son examen après des années d'études, il mérite son examen. S'il a travaillé pour cela, s'il a fait des sacrifices pour cela, s'il a concentré ses efforts pour ses études, à la fin, il mérite. Il mérite cet examen. Et grâce à cela, il va pouvoir postuler à un travail qu'il avait déjà envisagé dans le choix de ses études. Ça, c'est l'exemple, l'illustration, mais vous rapportez cela à la religion et vous avez à peu près la même chose. Dans beaucoup de religions, il y a d'abord une porte d'entrée. Si vous voulez entrer dans une religion, il faut soit se soumettre à un rite ou à une confession de foi. Par exemple, si vous voulez devenir musulman, il faut faire une confession de foi, qui est très courte. Il suffit de dire que vous reconnaissez que Allah est le seul Dieu, et vous devenez un musulman. Dans certaines religions, vous allez devoir peut-être vous plier au rite de la circoncision, par exemple, ou encore du baptême. On a fait, dans le christianisme, le baptême une porte d'entrée dans la religion. Et ensuite, vous êtes appelé à apprendre les lois, les règles, et à les pratiquer. Et dans la mesure où vous obéissez à ces règles, c'est comme si vous passiez votre examen final, en fait, qui va vous donner ce qui correspond à vos efforts, à vos mérites, à votre performance. Et si, au bout du compte, au jour du jugement final, vos bonnes œuvres sont supérieures à vos mauvaises œuvres, on met tout ça dans une balance, et tout dépend de quel côté le plateau va pencher, si vos bonnes œuvres sont supérieures à vos mauvaises œuvres, vous êtes sauvé. Alors pour vous aider, vous savez, il y a, j'ai vu avec vous la fois dernière, la surérogation. Vous vous souvenez de la surérogation ? Non, vous avez oublié. Et pour les Choletais qui n'étaient pas là, la surérogation, ça signifie littéralement ce que l'on fait au-delà de ce qui est exigé ou obligatoire. Donc, dans les religions, vous avez un certain nombre de règles qui sont obligatoires. Vous devez prier tant de fois par jour, vous devez jeûner à tel moment de l'année, vous devez faire telle et telle chose. Mais si, en plus de ce qui est exigé ou obligatoire, vous faites d'autres prières ou d'autres jeûnes, là, ce sont des prières surérogatoires. C'est en plus. Donc, vous mettez ça sur votre plateau, vous voyez. Et même, des fois, c'est ce que signifient les indulgences dans la doctrine catholique. Des fois, ça peut servir aussi pour les autres. Ces œuvres-là peuvent être utilisées et redistribuées par l'Église pour d'autres personnes, notamment celles qui sont au purgatoire. Ça, c'est le système qui est en place. Et c'est comme à l'université ou dans les grandes écoles. Vous avez la porte d'entrée, vous avez ensuite une série de travaux à faire, d'apprentissage, d'obéissance. Et puis après, vous avez un examen final. Vous avez un jugement dernier qui va déterminer exactement ce qu'il en est. C'est comme ça que ça marche dans les religions. Maintenant, avec l'Évangile. Comment ça peut marcher ? Et là, je prends une autre image, celle d'un jeune couple. un garçon et une fille qui se fréquentent et qui décident de se marier. On est à la période des mariages en ce moment. Pascal s'est marié hier. Guillaume va se marier bientôt. Alors, je ne veux pas trop personnaliser, mais imaginez que moi, il y a des années en arrière, lorsque j'ai commencé à fréquenter Dina, je lui ai dit, écoute, ouais, ça serait bien qu'on se marie, on est d'accord pour se marier, mais avant de se marier, voilà, je t'ai fait une petite liste de tout ce que je veux que tu fasses, de toutes les règles, de toutes les lois, de tout ce que je veux. Voilà. Tu vas faire ça pendant 30 ans. Et au bout de 30 ans, on fera un bilan. Et si le bilan est positif, on se mariera. Ah ! S'il est négatif, eh ben j'irai chercher quelqu'un d'autre. Vous allez dire, mais Daniel, où tu vas chercher ça ? Vous allez dire, mais c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'on peut penser quelque chose comme ça? Bien sûr, on ne peut pas penser quelque chose comme ça. Il n'y a que Daniel qui peut penser des trucs comme ça. Truc aussi bizarre. C'est presque une insulte. Pourquoi est-ce que c'est impossible de faire les choses comme ça? Parce que vous voyez, ce que je viens de dire, ça rejoint exactement ce que l'on dit dans les religions. Ça rejoint la méthode qui est suivie dans les études universitaires notamment. Que d'abord, il faut suivre, il faut obéir à un certain nombre de règles et de commandements, et une fois qu'on a obéi, à ce moment-là, on peut. Mais pourquoi ça ne peut pas s'appliquer dans une relation de couple notamment? Pourquoi c'est impossible? Parce que dans ce genre de relation, on accepte l'autre sur la base de l'amour et de la confiance. On ne l'accepte pas sur l'obéissance, sur la base d'obéissance à des règles, à des commandements, qu'il faudrait suivre pendant des années, avant d'aboutir à quelque chose. Non, dans toute relation, et particulièrement en relation de couple, on le fait sur la base de l'amour et de la confiance. C'est-à-dire de la foi dans l'autre, en fait. Ça veut dire qu'on accepte l'autre. Alors certes, ça peut être un risque, hein, bien évidemment. Mais on prend ce risque-là. On accepte l'autre sans savoir exactement s'il va toujours faire les choses comme on voudrait qu'il les fasse. On n'imagine pas un instant fonder ce genre de relation d'abord sur la performance et sur l'obéissance. On n'imagine pas ça. Ça n'aurait aucun sens sur le plan humain. Avant d'accepter cette personne. Disons, écoute, je vais t'accepter, mais avant cela, il va falloir que tu fasses tout ça. Ce qu'on retrouve dans les religions. Ce qui peut avoir sa place, bien évidemment, dans les études. Il faut travailler, faire des efforts et passer des examens pour être accepté et pour après postuler à un travail. Mais dans la relation humaine, dans ce genre de relation humaine, notamment de couple, ça n'a pas sa place. Justement, dans l'Évangile, ce que Dieu cherche avec nous, c'est une relation. C'est d'abord ça qu'il recherche. Et c'est pas par hasard que souvent, dans la Bible, Dieu va prendre l'image du couple pour illustrer sa relation avec son peuple, que ce soit le peuple d'Israël. C'est des images célèbres du couple, et puis dans le Nouveau Testament, avec l'Église. Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Et parce qu'on entre dans ce genre de relation avec Dieu, bien sûr, ça doit commencer sur la base de la confiance, de la foi dans l'autre. C'est pour cela que la liberté est nécessaire pour avoir cette relation avec Dieu. C'est pour cela que si on reprend l'équation que je vous ai donnée tout à l'heure, ça ne peut être que ce qu'on trouve dans l'Évangile, c'est Jésus plus le salut, être accepté, la grâce. On est dans cette relation. Puis après, bien évidemment, on peut aller dans l'obéissance. Et ça sera fait dans la liberté. C'est ce que Paul a voulu rappeler à ces chrétiens galates, ces galates qui s'étaient tellement éloignés de l'Évangile. Pour reconstruire ce schéma, pour aller vers Jésus plus la loi, plus l'obéissance, c'est-à-dire le retour à l'esclavage. Donc, la liberté est indispensable dans le modèle évangélique, on peut dire. On ne peut pas être dans cette relation avec Dieu si on n'est pas d'abord dans cette liberté. Et cette liberté qui nous est donnée par le fait que Dieu nous accepte d'abord. Et que nous sommes là les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Une fois qu'on a cette liberté, on le voit avec l'histoire des Galates, elle peut être vite menacée. Et il convient de la protéger, cette liberté. Et c'est la raison pour laquelle Paul dira dans ce verset premier, si on peut remettre le verset premier, je te fais voyager un peu sur chapitre 5, c'était tout au début. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Et Paul dit, « Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Paul dit, « Faites attention. » Ce n'est pas parce que vous avez cette liberté que vous allez la garder tout le temps. Justement, le problème des Galates, c'est qu'ils l'avaient perdue. Et qu'ils étaient retournés sous une forme d'esclavage. Et on sait que l'ennemi de la liberté, ça va être le légalisme. Et quand on parle de légaliste, on parle d'une chose. On parle d'ajouter, pour nous chrétiens, à Christ des œuvres et des lois dans le but d'être sauvés. C'est de ça dont on parle. C'est exactement ce que faisaient les Galates. Eux, ils disaient Christ, mais plus la circoncision. Et puis après, ben, plus le sabbat, bien évidemment. Et plus les viandes impures, etc. Pour être sauvé, en fait. Dans le but d'être sauvé. Ça, c'est retourner sous la loi, c'est aller dans le légalisme. C'est ajouter à Christ des œuvres ou des lois indispensables pour le salut. Et ça, je l'ai dit la fois dernière, mais je le répète, c'est une tendance très naturelle dans le cœur de l'homme. Parce que l'esclavage nous a forgé une mentalité, en fait. Une façon de penser, une façon de voir les choses, dont il est difficile de se débarrasser. Vous avez l'exemple, bien sûr, bien connu, des Israélites ou des Hébreux en Égypte. Ils ont été pendant longtemps esclaves. Oh, ils ont été libérés en une nuit, hein, pas de problème. En une nuit, ils passaient d'un statut d'esclave à un statut d'hommes et de femmes libres. Ça s'est fait rapidement, ça. Une fois qu'ils se sont retrouvés dans le désert, ça y est, Pharaon n'avait plus de pouvoir sur eux. C'était fini. Les Égyptiens ne pouvaient plus rien leur demander. Ils n'avaient plus de pouvoir. Ils étaient libres par rapport à Pharaon et par rapport aux Égyptiens. Ça s'est fait rapidement, comme pour nous, au niveau de la grâce et de la conversion. Ça, c'est quelque chose qui se fait rapidement. On change de statut. D'homme ou de femme, esclave, on devient libre. Une fois que les Hébreux se sont retrouvés dans le désert, Pharaon, la police de Pharaon, la gendarmerie de Pharaon, ne pouvaient plus rien faire contre eux. C'était fini. Les corvées étaient finies, les humiliations étaient terminées. Ils étaient libres. Et pourtant, vous savez, vous connaissez la suite de cette histoire. À la première difficulté, il n'a pas fallu attendre longtemps, hein, à la première difficulté. Pas assez d'eau, pas assez de nourriture. L'irritation, la colère. Et surtout quoi? La demande de retourner en Égypte. On se dit, mais qu'est-ce qui leur a passé par la tête? Ils ont souffert pendant des années, ils ont crié à Dieu parce qu'ils n'en pouvaient plus du traitement de ces Égyptiens. Et voilà maintenant qu'ils veulent retourner. Ils se souviennent que des oignons, des carottes et des concombres qu'ils mangeaient en abondance en Égypte. Ils se souviennent que de cela et tout le reste, ils l'ont oublié. Ils ont été libérés d'Égypte en une nuit. Il a fallu 40 ans pour qu'ils soient désintoxiqués de l'Égypte. 40 ans. Alors, ils ont fini par être désintoxiqués. Comprenez pourquoi, pour les Galates, ça s'est passé de la même manière. Ils sont convertis pour beaucoup en espace d'un instant. Ils sont devenus libres, mais ils étaient retournés en Égypte, là, comme Paul leur a écrit. Ils retournaient en Égypte. Ils retournaient dans l'esclavage. Ils avaient besoin d'être désintoxiqués. Et c'est la même chose pour nous. On peut facilement retourner en Égypte. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que des chrétiens esclaves, malheureusement, ça existe. C'est un contresens biblique, ça n'a rien à voir avec l'Évangile, mais ça existe. C'est ce qui s'est passé pour les Galates. Alors on apprend à un moment donné qu'ils ont été désintoxiqués de cette mentalité. Et Dieu l'a marqué de manière visible pour ces Hébreux lorsqu'ils sont arrivés dans le pays de la terre promise. Quelle a été la première étape dans ce pays de la terre promise lorsqu'ils ont traversé le Jourdain? Vous connaissez la première étape? Ça s'appelle comment la première étape? Qui a dit Jéricho? Non. C'est juste avant Jéricho. C'est Gilgal. Gilgal. Et on lit dans Josué 5:9, et le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé loin de vous l'opprobre. J'ai mis entre parenthèses la honte, le déshonneur, l'opprobre d'Égypte. Et l'on appela ce lieu du nom de Gilgal. Jusqu'à ce jour, les fils d'Israël campèrent au Gilgal et firent la Pâque au 14e jour du mois, le soir dans la plaine de Jéricho. Et après, ils vont prendre Jéricho. Mais la première chose que Dieu a voulu, il leur a dit, vous allez prendre 12 pierres tirées du Jourdain, qui étaient à sec, qu'ils venaient de traverser. Ces 12 pierres représentant bien sûr toutes les tribus d'Israël. Et vous allez faire un lieu de mémoire, en fait. Vous allez marquer les choses. Parce que maintenant que vous êtes dans la terre promise, maintenant, l'Égypte c'est fini. L'Égypte est sortie de vous maintenant. Cette opprobre, ce complexe d'infériorité, tout ce qui vous ramenait à l'esclavage, maintenant la page est tournée. Maintenant c'est fini. Et on a besoin de vivre, et je crois qu'il y a des chrétiens qui ont besoin de vivre ce genre de moment. On voit pour certains chrétiens, il y a toujours cette tendance de revenir à des lois, des œuvres. C'est pas que les lois et les œuvres sont mauvaises, bien évidemment, mais dans l'esprit de leur salut, en fait, pour pouvoir s'assurer leur salut. Et là, il faut être désintoxiqué de cela. Et Paul a vu que c'était le problème avec ces chrétiens galates. Alors, il y va fort. Pour illustrer cela, je vais vous parler d'une femme, d'une américaine qui s'appelle Harriet Tubman. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler d'elle, mais c'est pas grave. Mais c'est une femme assez extraordinaire. Harriet Tubman, voilà, elle n'a pas beaucoup de sourire là, je reconnais, mais je n'ai pas trouvé de photo avec elle, avec le sourire. On est quand même, on est surtout au 19e siècle, au début de la photographie, alors il n'y en avait pas beaucoup, bien évidemment, et je sais pas, on ne leur demandait pas quand ils étaient pris en photographie. Ils étaient pris en photo de sourire. Donc, elle a plutôt un visage un peu fermé, un peu strict. Mais Harriet Tubman, c'est une femme assez extraordinaire, une grande figure des USA au moment, bien sûr, de l'esclavage. Et elle va être ce qu'on appelle le chef de train du chemin de fer clandestin. Alors, c'était quoi le chemin de fer clandestin? En fait, c'était la route que prenaient les esclaves qui fuyaient les pays esclavagistes au sud des États-Unis pour aller au nord des États-Unis dans les États libres. Donc c'était des routes, bien sûr, clandestines. C'était pas le train qui prenait, bien évidemment, mais des routes clandestines avec des étapes pour aller vers la liberté. Et Harriet Tubman a beaucoup fait pour libérer des esclaves. D'abord, elle s'est libérée elle-même, Elle était mariée à un homme libre, un noir libre, mais elle s'est libérée elle-même sans son mari. Elle est partie et elle est partie dans les, elle est arrivée dans les États du Nord libre. Et mais elle s'est pas contentée de cela. La plupart, bien sûr, ils faisaient cela. Et puis une fois qu'ils étaient libres, ça y est. Mais elle, elle a pensé à tous ceux qui étaient dans son village, dans sa plantation, et qui étaient esclaves comme elle. Et donc, elle est revenue et elle a organisé la fuite d'un grand nombre, parce que là, on estime autour de 300 esclaves ont pu être libérés grâce à Harriet Tubman. Et elle prenait des risques. On avait mis, bien sûr, un prix sur la tête d'Harriet Tubman, je crois de 40 000 $ pour tous ceux qui pouvaient la retrouver. Donc, elle était recherchée par beaucoup de monde. Et on a fini par l'appeler, vous savez comment on l'a appelée ? On l'a appelée Moïse. Eh oui, Moïse, bien évidemment. Elle a fait avec les esclaves noirs aux USA, avec 300 d'entre eux, ce que Moïse avait fait avec les esclaves hébreux en Égypte. Une femme d'un courage extraordinaire. Elle était dans le Maryland et elle a fui au nord et elle a fait à peu près entre 15 et 20 voyages comme ça, avec tous les risques que cela pouvait comporter. Et je raconte cette histoire parce que elle raconte qu'à un moment donné, dans l'un de ses voyages, c'était pas des groupes très très nombreux, ils étaient peut-être 15 ou 20, ils étaient pas très nombreux, parce qu'il fallait être discret, bien évidemment, il fallait pas qu'ils soient repérés. Et puis, dans ce groupe, à mi-parcours, il y a un des esclaves qui a voulu revenir dans sa plantation. C'était tellement dur, les risques étaient tellement grands, qu'il a dit à Harriet Tubman et aux autres, il a dit, moi je retourne. Et Harriet a dit non, il n'est pas question que tu retournes. Parce que si tu retournes, c'est des risques pour nous aussi. Ils peuvent t'arrêter, s'ils t'arrêtent, ils peuvent te faire parler, tu vas peut-être parler de nous, par où on est passé, etc. Donc il y avait trop de risques. Et comme il était décidé, elle avait un revolver avec elle, un accessoire qui peut être utile de temps en temps. Et elle a sorti son revolver, elle l'a mis sur la tempe de ce noir qui voulait retourner, et lui a dit, tu viens avec nous vers la liberté ou tu meurs sur le champ. Boum. Il avait le choix, lui. Il s'est dit quand même, il vaut mieux. Il vaut mieux que je continue la route avec ce groupe. Il y a peut-être un risque que je meure, mais enfin, il y a peut-être une chance que je m'en sorte aussi, parce que là, c'est fini. Parce que Harriet, elle a été décidée. Et quelques jours plus tard, ils vont arriver au Canada, sains et saufs, et il va être libre. Quand je lis l'Épître aux Galates, et je pense à cette histoire, je me dis que c'est exactement ce que Paul est en train de faire avec les Galates. C'est le genre d'ultimatum qu'il leur met. Il leur dit, soit vous continuez le chemin, soit vous mourrez maintenant. C'est la liberté ou l'esclavage, c'est-à-dire la mort, en fait. Il ne leur donne pas d'autre alternative, pas d'autre choix. Il dit, si vous continuez dans cette voie-là, cet esclavage-là vous tuera. Plus de liberté, plus de salut. Vous êtes mort. C'est comme si Paul mettait son revolver sur leur tempe en disant, voilà, maintenant, vous avez le choix. Vous voulez continuer vers la liberté. Maintenant, si vous retournez, vous êtes mort. C'est fini pour vous. Et Paul, il s'est battu pour cela. Et il nous donne un exemple de cela dans l'Épître aux Galates. Vous connaissez probablement, peut-être on connaît plus le deuxième exemple. Il nous donne deux exemples. Le deuxième exemple, c'est celui avec Pierre. Vous savez, quand Pierre va les rejoindre à Antioche et que Pierre qui va manger avec les païens, lorsque des chrétiens de Jérusalem vont arriver, c'était des judaïsants, ils ne voyaient pas d'un bon œil, bien sûr, de manger avec des païens, et Pierre va rejoindre ces juifs de Jérusalem, judaïsants, et Paul va vraiment s'affronter à eux, il va dire, à Pierre, il va dire, non, tu ne peux pas faire ça. Ça, je pense que c'est assez connu pour beaucoup d'entre vous, mais il y a un autre épisode qui nous est raconté avant, c'est lorsque Paul va aller à Jérusalem accompagné de Tite. Et il raconte cela, et on lit cela, donc dans Galates au chapitre 2, Ensuite, 14 ans plus tard, je suis remonté à Jérusalem avec Barnabé ou Barnabas, et j'ai aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté par suite d'une révélation. Je leur ai exposé la bonne nouvelle que je proclame parmi les non-juifs. Je leur ai exposé en privé aux gens les plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, qui était païen donc, n'a pas même été contraint de se faire circoncire. La suite, tout cela à cause des faux frères, des intrus, vous voyez, comme les Galates, qui s'étaient introduits parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir, de nous ramener à l'esclavage en fait. À cela, dit Paul, nous n'avons pas cédé un seul instant et nous ne nous sommes pas soumis afin que la vérité de la bonne nouvelle demeure pour vous. Et là, Paul s'est affronté. Paul a bien compris que s'il laissait Tite se faire circoncire, c'était se plier au désir de ses faux frères, comme il les appelle, ces gens qui disaient Christ plus la loi pour être sauvés. Et Paul dit, il n'en est pas question de cela. Vous savez que quand il viendra avec Timothée, vous savez ce qu'il fera avec Timothée ? Timothée le fera circoncire. Alors il dira, ah, il y a deux poids, deux mesures. Ah ouais, mais là, ce n'était pas devant les faux frères. C'était pour gagner des juifs que Paul a fait cela avec Timothée. Là, il était en face d'un autre public. Il était en face d'un public de gens qui disaient, il faut la circoncision, il faut Christ, mais il faut aussi la circoncision pour être sauvé. Et Paul dira, ah non, je n'ai pas cédé là. Et là, je ne céderai pas. Il n'a pas cédé à leur demande, il leur a résisté de toutes ses forces. Parce qu'il savait une chose, comme il le dit, sinon, ah bouf, enfin, ça revient. Afin que la vérité de la bonne nouvelle demeure en vous. Il savait que l'évangile disparaissait à ce moment-là. S'il se pliait au désir de ses faux frères, c'était fini pour l'évangile. Jésus était mort pour rien. L'œuvre de Christ était annulée. Perdre la liberté qui nous est donnée par Christ, c'est perdre l'évangile. Vous voyez l'importance de l'enjeu ? Vous voyez qu'il nous faut tout faire pour protéger la liberté. Parce que l'esclavage peut revenir de manière très subtile. Pas sous cette forme-là, pas comme pour ces judaïsants demandant la circoncision, bien sûr. Il n'est pas question de cela, on n'est pas dans le même contexte. Mais au travers de d'autres choses. Il y a par exemple un courant qui n'est pas énormément répandu, mais qui a défendu une position qui s'appelle l'éthique de la gratitude, ou l'éthique de gratitude. Vous allez dire, c'est quoi l'éthique de la gratitude ? C'est très simple comme concept. C'est de se dire, Dieu a tellement fait pour moi, pour me libérer. Maintenant, je dois lui consacrer ma vie pour lui rembourser, si ce n'est pas en totalité, ça peut être en partie. C'est le sentiment d'avoir une dette à l'égard de Dieu. Alors oui, quand on est bénéficiaire d'une telle grâce, on peut avoir ce sentiment d'avoir une dette. Et ça, on l'entend souvent dans nos prières, non ? On dit, mais Seigneur, j'ai une dette à ton égard. Il faut faire attention à la manière dont on pense à cette dette. Ça peut être très dangereux. Parce que, en tant que chrétien, on peut voir le salut non plus comme un don gratuit à ce moment-là, mais comme un prêt, un crédit. Et vous savez ce que c'est un crédit ? Vous en avez certainement des crédits les uns et les autres. Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous devez faire quand vous avez un crédit, quand vous signez un crédit ? Hein, vous remboursez tous les mois. Hein ? Et des fois, ça prend 15 ans, 20 ans, plus maintenant même. Vous n'êtes pas vraiment libre. Quand on a un crédit, on n'est pas libre. Il faut payer. Essayez d'être libre en disant « Oh, ce mois-ci, je ne paye pas. » Vous allez voir si ça marche longtemps. Vous allez voir si on ne va pas vous envoyer des huissiers. Vous n'allez pas être libre longtemps. Quand on a un crédit, on n'est pas libre. On est dans le cadre d'un contrat. Et ce contrat, ben, il faut le payer. Il faut le respecter. Et donc payer le crédit. Donc si on se dit comme cela, « Ah, Seigneur, tu as été tellement bon avec moi, c'est extraordinaire. Tout ce que tu as payé pour moi, Seigneur, j'ai une dette à ton égard. » Faisons attention quand on utilise cette expression-là. Parce que le chrétien, c'est pas un débiteur face à Dieu. C'est un fils. Ça change tout. Un débiteur, c'est un esclave. Il a un crédit à payer et il n'est pas libre. Alors oui, on peut avoir ce sentiment de posséder une dette à l'égard de Dieu. Mais dès qu'on dit cela, il faut en même temps, dans la même phrase, exprimer la certitude que Dieu ne nous demande surtout pas de rembourser. Et que si je fais quelque chose ce matin, venir au culte, le louer, lui donner mon offrande, prier, lire ma Bible, témoigner, ce n'est pas pour payer une dette. Ce n'est pas pour rembourser. Dieu ne nous demande pas ça. Parce qu'à ce moment-là, on diminue l'œuvre de Christ à la croix. Christ a payé la dette que nous devions à Dieu et si on change ça, ça veut dire qu'il n'a pas tout accompli. Pour illustrer cela, on terminera avec ça. Prenons un exemple. Imaginons un père avec, ça serait pareil avec une mère, mais bon, je prends l'exemple d'un père, avec son enfant, et l'enfant, il est revenu de l'école, et il a eu le droit de jouer dans sa chambre pendant quelque temps, avant d'aller se coucher. Donc là, il sort ses jouets, il sort ses Legos, là, hein, ils ont toujours des montagnes. Il en sort. Et puis, à un moment donné, il faut quand même s'arrêter. Il faut aller voir l'enfant et puis lui dire, écoute, mon chéri, tu t'es bien amusé, mais maintenant, il faut ranger. Aïe. Non ? Quelle est la réaction, généralement ? Vous connaissez ? Vous avez les mêmes que les miens ? Hein ? Quand vous commencez à dire, ça y est, c'est fini, maintenant il faut aller au lit, mais avant d'aller au lit, il faut ranger, il faut tout ranger. Et quand vous avez 3 millions de Legos qui sont étalés dans la chambre, avec tout le reste, vous avez deux choses, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez dire à l'enfant, écoute, tu t'es bien amusé, c'est vrai que il y a comme une troisième guerre mondiale dans la chambre là. Mais maintenant il faut ranger, je te donne 5 minutes. Si dans 5 minutes t'as pas rangé, je m'occupe de toi. Vous interprétez ça comme vous voulez. On n'a pas forcément les mêmes méthodes. Mais je m'occupe de toi. Comment l'enfant va-t-il faire? Il va dire, ouh lolo, j'ai intérêt de ranger, mais il va ranger comment? De bonne humeur? Il va ranger avec la peur? Il va ranger en grognant? Des fois, certains sont un peu plus résistants, vous voyez, sont un peu plus tenaces. Donc, ils ne rangent pas du tout. Ils font la tête, ils boudent. Il faut revenir. Faut faire attention, si tu n'as pas rangé dans 5 minutes, il y a déjà 4 minutes 50, maintenant tu n'as plus que 10 secondes. Vous avez cette méthode-là. Elle fonctionne. Elle a ses défenseurs, ses pratiquants. Il y a une autre méthode. L'autre méthode pour le père, c'est de dire, écoute chérie, il faut ranger. Tu sais ce qu'on va faire? On va le faire ensemble. On va tous les deux le faire ensemble. Puis on va voir qui est le plus rapide. Un peu de compétition, ça fait pas de mal dans ces moments-là. Surtout si c'est un gars. Et vous dites, voilà. Et le gamin, comment est-ce qu'il va vivre ça, lui? C'est super, il a son père avec lui. Il joue avec lui d'une certaine manière. Il est là, il range. Alors le père en fait certainement plus, trois fois plus que l'enfant. Donc c'est plutôt rentable. Et au bout de 5 minutes, tout est rangé. Et il est de bonne humeur pour aller au lit. Voilà une petite méthode parentale pour ceux qui auraient besoin d'un petit conseil en passant. Pour ce soir et les autres soirs. Il y en a qui vont dire, ah, j'avais jamais essayé ça. Vous allez voir, ça marche mieux encore. Vous voyez la différence entre la première méthode et la deuxième? La première, il risque de s'irriter, de se décourager, et vous allez vous énerver. Et puis ça finit parfois par une punition. Et puis il va finir par aller au lit, mais en pleurant. Et vous aussi. Mais vous n'allez pas lui montrer, bien sûr. Ou alors vous dites, je vais aller avec toi. On va faire les choses ensemble. On va ranger ensemble. On va faire ce travail. À ce moment-là, c'est plus un joug. C'est plus un poids insupportable. Ça devient même un plaisir. C'est dans le cadre d'une relation. Alors, il peut y avoir encore, bien évidemment, la discipline, si c'est nécessaire, parce que parfois, il va en profiter un peu trop, bien évidemment. Lui, il fait rien. Et veut... Alors, il peut y avoir la discipline, mais c'est plus du tout la même chose. Vous voyez. On n'est plus du tout dans la même atmosphère. Le climat est complètement différent. Vous avez compris, hein? Comment est-ce que vous êtes venu ici ce matin? Avec la première méthode ou la deuxième? Ça change tout, hein? Si vous êtes venu en disant, oh là, il faut que j'aille au culte ce matin. Parce que si je ne vais pas au culte, je vais être puni. Je vais peut-être avoir un malheur qui va me frapper la semaine prochaine. Non, il faut que j'aille au culte, je n'ai pas envie d'y aller, mais il faut que j'y aille. Je vais y aller. C'est tout sauf la liberté, ça. C'est l'esclavage. Dans ce cas-là, on fait les choses pour une œuvre afin d'être accepté. Mais si vous êtes venu, et je pense que c'est le cas, en tout cas j'espère, pour tout le monde, que vous êtes venu en vous disant, mais ah, Seigneur, tu me demandes de faire des choses, et parfois il faut venir au culte et t'adorer, te louer, j'ai du mal à faire cela ce matin parce que j'ai un poids, parce que pour telle et telle raison. Seulement, vous savez une chose, c'est qu'il vient avec vous. Il vient avec vous. Il vient ranger avec vous. Il vient ranger votre cœur avec vous. Et il fait la plus grande part, bien évidemment. Et c'est dans le cadre d'une relation avec lui. Et là, forcément, faire ces choses comme prier, louer, lire sa Bible, servir, témoigner, tout cela, c'est plus un fardeau à ce moment-là. Ça change totalement. Pourquoi est-ce qu'on est là ce matin? On est en droit de se poser la question. Que ça fait une grande différence au bout du compte. On reviendra là-dessus certainement, d'une manière ou d'une autre. Mais je terminerai avec ces deux versets. Paul dit, on s'est arrêté sur le verset premier de Galates 5, verset 2, Paul dit, écoutez, moi, Paul, je vous l'affirme, si vous vous faites circoncire, alors le Christ ne vous servira plus à rien. C'est clair. Il faut choisir. Si vous prenez cette voie-là, Christ est en dehors. C'est fini maintenant. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Je l'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Il a le devoir d'obéir à la loi tout entière. Alors si vous prenez cette voie-là, il dit, il faut tout faire. Là, vous ne pouvez pas faire la moitié seulement. Il faut tout faire. Si vous voulez être sauvé, par la loi, il faut obéir à toute la loi. Vous qui cherchez à être reconnu juste aux yeux de Dieu par la loi, vous êtes séparés du Christ. Il répète, là c'est fini. Si vous prenez la loi, le Christ c'est fini. Vous êtes privés donc de la grâce de Dieu. Il n'y a plus de grâce parce qu'ils voulaient les deux. Ils auraient bien voulu les deux. Seigneur, bah oui, la loi, mais quand on ne peut pas faire, la grâce. Non, Paul dit, c'est la loi, et si c'est la loi, c'est la loi tout entière. Sinon, c'est la grâce. Et c'est la grâce seulement. Ensuite, quant à nous, voilà, il parle de ceux qui sont dans l'Évangile, dans la liberté, nous mettons notre espoir ou notre espérance en Dieu, c'est-à-dire notre certitude. Espoir, c'est pas comme on l'entend souvent, nous, hein. Quand on espère quelque chose, on n'est pas certain de l'avoir. Mais là, c'est dans le mot en grec, c'est une certitude. Donc notre certitude est en Dieu qui nous rendra juste à ses yeux. C'est ce que nous attendons par la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de notre foi. Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui m'importe ou ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Tout est dit. Amen. Que Dieu soit béni. Au revoir les Choletais, que Dieu vous bénisse. On était content de passer ce moment avec vous. On va partager ensemble ce repas de Sainte-Cène maintenant. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette œuvre que tu as accomplie. Que tu as accomplie totalement. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous éloigner de l'esprit de l'Évangile. Nous ne voulons pas nous éloigner de la liberté que tu nous as donnée, Seigneur. C'est un bien si précieux. Seigneur, aide-nous à être délivrés de cette mentalité légaliste qui peut facilement être la nôtre. Aide-nous, Seigneur, à être profondément attachés à cette liberté que tu nous as donnée. Et nous voulons la célébrer ce matin, cette liberté. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, d'être libres, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous a conduits dans cette relation avec toi, dans cette confiance pour recevoir ta grâce, Seigneur. Alors nous bénissons ton nom, Seigneur. Pardonne-nous chaque fois, Seigneur, que nous voulons ramener la loi, Seigneur, pour être sauvés. Donne-nous, Seigneur, de vivre sous la grâce, avec la loi que toi, tu as totalement accomplie, afin de nous accepter tels que nous sommes. Et aujourd'hui, Seigneur, que nous sommes tes disciples, nous avons envie de t'obéir. D'autant plus que nous savons que tu nous rejoins, Seigneur, que tu viens avec nous comme ce père qui va avec son enfant. Tu viens avec nous, Seigneur, à nos côtés pour nous aider à obéir, à te suivre, à nous conduire d'une manière digne de l'Évangile, selon l'expression de Paul. Sois béni pour cela, Seigneur. Sois loué. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.